La mosaïque des lexiques, revue vivante, a lieu le premier vendredi de chaque mois au laboratoire d'Aubervilliers. Elle propose de croiser les jargons, comparer les lexiques, les langues, multiplier les adresses. En bref, on y cause, traduit, danse, chante et fête chaque fois le mois nouveau.
Mosaïque des lexiques, 5 novembre 2021, revenir. Début 20h, durée 1h30, adresse, laboratoire d'Aubervilliers, grande salle. Description, intervention parlée au plateau, public en gradin, DJ set à 22h. Table et chaises plateau, tapis blanc, système diffusion sonore, plein feu, lumière. Le banquet du roi, Anderson H.S. Vieira. Entrée du public. Sans retour. Valentin Lewandowski. Un micro.
Connais-tu Jacques de la Palisse ? Écoute son épitaphe. Ouvrez guillemets. Si gît le seigneur de la Palisse, s'il n'était mort, il ferait envie. Fermez guillemets. Voici maintenant comment l'on se souvient de l'épitaphe de la Palisse. Ouvrez guillemets. Si gît le seigneur de la Palisse, s'il n'était mort, il serait en vie. Fermez guillemets. Tout cela a donné lieu à un malentendu et à un nouveau mot que je n'ai pas la peine de définir, la palissade. Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palisse, avez-vous réfléchi en temps et en heure à votre épitaphe et l'avez-vous rendu public avant de mourir ? Non. Si vous l'aviez fait, vos soldats ne se seraient pas permis de la composer à votre place. Sans ce malentendu, vous auriez peut-être joui d'une postérité meilleure, ou peut-être pas de postérité du tout, ce qui n'est pas mal non plus. Il est peut-être dangereux d'anticiper son épitaphe avant de mourir, surtout quand on bricole avec son lit. Mais il est encore plus dangereux de laisser aux autres le soin de trouver son épitaphe à sa place. Connais-tu Alphonse Allais ? Écoute son épitaphe. Ouvrez guillemets. Si j'y allais, sans retour. Fermez guillemets. Monsieur Allais, avez-vous réfléchi en temps et en heure à votre épitaphe et l'avez-vous rendu public avant de mourir ? Oui. Tout aurait été parfait si votre tombe n'avait pas été percutée par un obus lors de la Seconde Guerre mondiale. Connais-tu Dorothy Parker ? Écoute son épitaphe. Ouvrez guillemets. Excusez ma poussière. Fermez guillemets. Madame Parker, avez-vous réfléchi en temps et en heure à votre épitaphe et l'avez-vous rendu public avant de mourir ? Oui. Connais-tu Paul Erdős ? Écoute son épitaphe. Ouvrez guillemets. J'ai enfin arrêté de devenir plus con. Fermez guillemets. Dans la version hongroise, Végre nem butulok tovább. Monsieur Erdős, sur votre page Wikipédia, il est écrit que cette épitaphe a été suggérée par vous. Que cela signifie-t-il ? Cela veut-il dire que quand votre famille discutait de la décoration de votre tombe à la morgue, vous vous êtes subitement réveillé en disant « Moi, j'ai pensé à ça ?» Non. Monsieur Erdős, vous étiez vivant quand vous avez suggéré votre épitaphe. Je suppose que vous êtes rendu chez le croque-mort avec votre valise en lui disant « Mon cerveau est ouvert !» Et le croque-mort « Non, je ne crois pas, désolé. » Revenez plus tard ? Non ? Bref, Toute épitaphe est l'œuvre d'un être vivant. Ne crois pas que quand tu rejoindras les verts pâturages, tu pourras toujours intervenir dans le choix que les autres font pour toi. Et si tu ne veux pas d'épitaphe, je te conseille d'y réfléchir, car il serait quand même dommage que tu te mettes à regretter de ne pas l'avoir fait pile au moment où tu commences à perdre ta respiration, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?
Oui, mais...
Mais quoi ?
Et sur le site de la République française... Sur le site de la République française, il est écrit que pour pouvoir rédiger son testament, il faut, je cite, ouvrez guillemets, posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairées. Fermez guillemets.
Oui, c'est exact. Et alors ?
Alors, dans notre pays, le droit au testament ne semble être réservé qu'à une toute petite portion de la population.
Effectivement. Mais n'y a-t-il pas un autre endroit que ton testament où tu pourrais faire part de ton épitaphe ?
Je ne sais pas. Un journal ?
Par exemple, Jean d'Ormesson a annoncé la sienne 2 ans à l'avance aux journaux.
Oui, mais il faut être une personne importante pour pouvoir faire part de son épitaphe dans un journal. Je ne suis pas une personne importante.
Sans doute, sans doute. Mais cela ne veut pas dire que tu ne doives pas penser à ton épitaphe. Écoute-moi, tu es d'accord avec moi que Christine Lagarde et le pape François sont des personnes importantes.
Oui, je suis d'accord, Socrate.
Je ne m'appelle pas Socrate.
Pardon, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis confus.
Cela dit, si tu veux m'appeler Socrate, je n'y vois pas d'inconvénient.
Non, je ne vais pas insister si ce n'est pas ton prénom.
Je t'assure que ça ne me dérange absolument pas. À vrai dire, ça me fait presque plaisir.
Non, je pense qu'il est mieux que je ne t'appelle pas Socrate. Continue. Elle le mérite.
Tu as répondu avant moi. Une personne importante mérite-t-elle d'avoir une épitaphe sur sa tombe ? Tu admets donc qu'il incombe aux êtres vivants de graver une épitaphe sur la tombe des personnes importantes, puisqu'elles le méritent.
Oui, je le concède.
Par conséquent, quand Christine Lagarde et le pape François rejoindront les verts pâturages, rejoindront les verts tout court, il incombera aux êtres vivants de graver une épitaphe sur leur tombe.
Nécessairement.
Or, tu es d'accord avec moi que l'humanité est plus importante que Christine Lagarde et le pape François, malgré tout le respect que nous leur devons.
Oui, je suis d'accord.
Donc, l'humanité, elle aussi, mérite une épitaphe. Elle le mérite même plus que Christine Lagarde et le pape François, malgré tout le respect que nous leur devons.
Oui, cela me semble logique.
Hop, 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 c'est pas fini. Or, nous avons vu que si quelqu'un méritait une épitaphe sur sa tombe, il incombait aux êtres vivants de graver cette épitaphe sur cette tombe.
Effectivement.
Donc, quand l'humanité sera morte, il incombera aux êtres vivants de graver une épitaphe sur la tombe de l'humanité.
Nécessairement.
Mais cela n'est-il pas absurde ? Une fois morte, une fois l'humanité morte, il n'y aura plus d'êtres vivants pour graver des épitaphes.
Ah oui. En effet, je n'y avais pas pensé.
Alors, que va-t-on faire ? Que va-t-on faire ? Va-t-on passer des siècles à entraîner des tardigrades à graver des lettres dans le granit pour que le jour venu, ils gravent une épitaphe sur la tombe de l'humanité ? Est-ce cela que nous allons faire ?
Non. Non.
Non, la seule solution, c'est de le demander à l'humanité elle-même, avant qu'elle ne meure. Or, toi et moi faisons bien partie de l'humanité. Oui. Il nous incombe donc de réfléchir à l'épitaphe de l'humanité. Maintenant, comment réussir à convaincre les citoyens de penser à quelque chose d'aussi lointain, d'aussi abstrait que l'épitaphe de l'humanité ?
Eh bien,
En les enjoignant à penser à leur propre épitaphe, dont l'idée est beaucoup plus claire et accessible à leur esprit. Ainsi, pour sauver l'honneur de l'humanité, je soutiens qu'il faut encourager les citoyens de la Terre à réfléchir à leur propre épitaphe, tout en observant la maxime suivante. Écoute bien. Conçois ton épitaphe de telle sorte qu'on puisse vouloir qu'elle devienne une épitaphe universelle. Répète après moi.
Excuse-moi.
Non, c'était « Conçois ton épitaphe de telle sorte qu'on puisse vouloir qu'elle devienne une épitaphe universelle. » Peu importe. Le temps presse. Que vas-tu faire maintenant ?
Je vais prendre le métro et rentrer chez moi.
Et ensuite ?
Je vais me faire à manger.
Et ensuite ?
Eh bien, je vais aller me coucher.
C'est tout ? Il n'y a rien que tu oublies ?
Je vais réfléchir à mon épitaphe et ensuite j'irai me coucher.
Tu réfléchiras à ton épitaphe tant que tu es encore debout. Tu marqueras le résultat de tes réflexions sur un petit bout de papier que tu intituleras « Ceci est mon épitaphe » de point guillemets, que tu poseras à côté de ton lit. Et alors seulement, tu iras te coucher. Bien. Alors, allons-y. Qu'attends-tu ?
C'est grâce à mon vocabulaire que je parle, bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui, épisode 7. Sabine Macher, Antoinette Ohanessian. Un micro.
Je vais lire le compte-rendu de 3 années de conversation que nous avons eues, Sabine Macher et moi. La première fois, j'ai commencé par prononcer une suite de mots. J'ai obtenu en retour une suite de mots. J'en ai prononcé une autre. J'en ai obtenu une autre. J'en ai prononcé encore une. J'en ai obtenu encore une. Au bout de 4 heures, j'ai remarqué que quelle que soit la suite de mots prononcés, j'obtenais en retour une suite de mots. Durant les 5 premières minutes de notre seconde conversation, Sabine a prononcé 110 mots, dont le mot « dentiste ». J'en ai prononcé 360, dont le mot « dentiste ». Le 10 février 2018, je lui ai dit « Mon père a été, ma mère devient, ma sœur est, mes enfants sont ». Sabine m'a dit, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ma fille. Le 18 mars, j'ai ajouté, ma grand-mère avait, mon grand-père aussi. Le 5 janvier 2019, Sabine a dit table. Comme à chaque fois au mot table, j'ai visualisé un truc comme ça. Mais elle ne parlait pas de cette table-ci. Elle parlait d'une autre table qui se trouve dans le 12e arrondissement. C'est là, à Paris, que nous avons écouté la chanson arménienne. Le 8 mai 2020, c'était un autre maintenant que ce maintenant ici, dans ce maintenant-là, celui du 8 mai 2020. Nous étions assises comme maintenant ici et nous écoutions la chanson. En septembre, Sabine a formulé une opinion. Antoinette, tes comptes rendus de nos conversations sont attendus. Est-ce qu'elle voulait dire attendu comme on attend un événement avec impatience? Ou est-ce qu'elle voulait dire attendu, prévisible, insipide, convenu, monotone, fastidieux, lassant, sans surprise, répétitive.
Thank you.
15 octobre 2021, Sabine dit « Un jour, je ferai le chien ». Dans ma tête, il y a eu d'abord ça. C'est une reproduction fidèle de ma vision. Et puis, il y a eu ça. Et ça. Et ça. Et puis, il y a eu ça. C'est une reproduction fiable de ma vision. Et un souvenir. Le souvenir de ce chien. Ce chien n'existe plus. Mais je peux encore parler de lui.
Je veux parler la langue. Larissa Clément Bellacel. Un micro.
Yeah. على ولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري لهم فني طول عمري عديت معاهم صغري
لهم فني طول عمري عمري لا prennent le relais de ma parole qui me change, m'écrase, m'aplatisse. Ils ne sauront pas le faire dans cette langue-là. Personne ne peut l'aplatir. Si je la parle, ils ne prendront jamais le relais. Après ma mort, je serai toujours moi. Personne ne pourra parler à ma place, ni parler sur ma dépouille.
Tamam hadi. Walou.
C'est quoi ton problème ?
Hadou tehder ma3a bil3arabiya, jabouk bil3français.
Ton père, c'est un étranger, c'est pour ça que tu es comme ça. Pourquoi tu dis que tu es algérienne ? T'es plus française ou algérienne ?
Dans mon enfance, j'ai entendu deux langues, le français et l'arabe algérien.
Ou bouk ? Bouk m'allemkomch ?
Je n'avais pas conscience que l'algérien était une langue distincte. J'avais l'impression qu'il se résumait à des mots précis dont il fallait soigner la prononciation.
J'ai entendu ton père, il disait des mots en arabe. Il vous parle en arabe à toi et à ton frère ?
Ces mots, on les entendait surtout au moment du repas. Rsel dik, le hobz, le kes, le ma, forcheta, zebda, le melh, de la, batata, betih, tefah.
Vous avez écrit à l'envers. Vous avez commencé par le tableau de droite et ensuite le tableau de gauche. En sport, en natation synchronisée, on se mettait en ligne, on faisait une pirouette, et tu étais la seule à te retrouver dans le mauvais sens. Quand il faut tourner à gauche, tu tournes à droite. C'est trop drôle.
Connais-toi toi-même.
Toi, tu vas faire du théâtre,
époque,
mais c'est pas
j'ai
possible.
J'ai commencé des cours d'arabe par correspondance. Je
mais tu peux pas faire de la danse, toi.
De manière incertaine, leur forme changeait sans cesse. Et je me demandais quel rapport il y avait entre ces coups
ah bon
et ce que j'entendais
du rail,
chez
toi.
Moi. Entre El Kiteb et El Ktob. El Bait et El Bit. Je me disais que c'était une histoire de voyelles qui tombait.
Tu es
à
l'envers.
Je n'étais pas si loin de la réalité.
Tu as encore mis ton pull à l'envers.
Dans quelle langue je
tu
pouvais m'exprimer?
Tu es décalé avec le son. Tu
Est-ce
as
qu'il
pris
me
le
fallait
son à
connaître
l'envers.
Toutes les langues
tu n'y arriveras pas.
Pour pouvoir dire quelque chose du monde qui m'environnait? Est-ce qu'il y a un rapport entre la langue et ce qu'on pense? Est-ce qu'il y a un rapport entre la langue et ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire dans une langue, mais pas dans une autre ? درستو اللغة العربية الفصحى في معهد وطني للغات والثقافة الشرقية في باريس. قررت أن أدرس الأبجدية وقواعد النحو. في البداية كنت أريد أن أفهم ما كان يتحدث أبي عندما كان يتحدث مع جدي وجدتي. ولكن اكتشفت الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الجزائرية.
L'arrivée des voix variées. Cécile Paris et Marie-Bénédicte Cazeneuve. Tapis blanc. Un micro HF SM58.
S'étonner de lire dans les pensées de l'autre, de comprendre parfaitement son monde, son langage, ses mots, ses expressions, son silence.
projeter une délivrance, loin des horaires, des chefs, des sonneries, des codes, des portes, des trajets, loin des flics, des ordres, du gaz. Ça arrive comme la voix de son maître, comme un fox terrier à l'oreille pointue, comme un teckel avec un pull, comme un caniche très bien coiffé, comme un berger allemand, belge ou blanc, comme un chouchou. Il y a la conjugaison du verbe jurer. Je jure, tu jures, elle jure, nous jurons, vous jurez, elle jure. C'est pas si simple, je jurai, tu juras, elle jura. Nous jurâmes, vous jurâtes, elle jura. J'écoute les autrices, les inspectrices, les animatrices, les productrices, les programmatrices, les actrices. On peut s'étonner de lire dans les pensées de l'autre, de comprendre parfaitement son langage, son monde, ses mots, ses expressions, ses cris, son chant, son silence.
Ça arrive comme des sons de l'espace, des voix dans ta tête. Ça arrive comme des hallucinations, un effet cocktail omniprésent, un écho permanent. Ça arrive comme des ondes. J'écoute le bruit de la mobylette qui passe au loin. Avant, ça pouvait troubler l'image de la télévision. Il y avait ce bruit très fort, ce moteur violent, et plus d'images, plus de réceptions. Il y a des vitesses, des rythmes, des repos, des silences, des hésitations. On peut penser l'époque, détester l'époque, regretter une époque, craindre, espérer, accélérer, voyager, on peut douter. Ça arrive hein, comme la presbytie, la myopie, les doubles foyers. Ça arrive comme les loupes, l'hypermétropie, les troubles de la vue. Ça arrive comme le flou, ça arrive comme le rêve. J'écoute des voyantes, des extra-lucides, des hypnotiseurs, des télépathes, des super intuitions, des antennes, j'écoute des puissances, j'écoute du volume. Il y a la conjugaison du verbe jurer, je jure, tu jures, elle jure, nous jurons, vous jurez, elle jure. Au passé simple, je jurai, tu juras, elle jura. On peut essuyer les plâtres, glisser sur une peau de banane, se prendre les pieds dans le tapis sans mordre les doigts. On peut louper une marche. Il y a un éléphant dans la pièce, très gros, qu'on ne peut plus ignorer. Ça arrive hein, comme la voix de son maître, comme un fox terrier à l'oreille pointue. Comme un teckel avec un pull, comme un caniche très bien coiffé, comme un berger allemand, belge ou blanc, comme un chouchou. On peut attendre des signaux de fumée, les observer pendant des heures et les lire comme des codes, comme des signes, un message précis venu de loin. J'écoute l'annonce des résultats, les noms des gagnants, l'annonce des nouvelles, l'annonce des chiffres du jour. J'écoute l'annonce de ton répondeur. Ça arrive comme une chance, un hasard, une coïncidence. Ça arrive comme une croyance, une vision. Ça arrive comme un événement.
Thank you.